On cesse ces derniers jours de parler des tensions entre Paris et Alger. Vous avez choisi de nous présenter cette semaine la réalité du pouvoir algérien.
Oui, mais avant, je préfère prévenir. Âme sensible algérienne, s'abstenir. Oui, je vais vous parler du pouvoir algérien. Je vais aborder ce sujet parce que ce régime, au-delà de son caractère antipathique, aime se faire donneur de leçons. Or, ce pouvoir est très particulier et n'est guère légitime à faire la leçon à qui que ce soit, tant ses défaillances sont incalculables.
De quelles défaillances vous voulez parler exactement ?
Bon, commençons par le commencement. L'appellation officielle de l'État algérien, c'est République algérienne démocratique et populaire. Ainsi, ce pouvoir prétend donc incarner une démocratie ou à tout le moins une forme de démocratie. Voyons de plus près. Qu'est-ce qu'une démocratie ? C'est le respect d'un certain nombre de critères. Je vais en citer quelques-uns. Les élections sont-elles totalement libres en Algérie ? Non. La manipulation des résultats, la fraude et la mobilisation des moyens de l'État pour un seul candidat, celui du système, sont une réalité connue de tous. Y a-t-il une alternance possible en Algérie ? La réponse est non. Depuis l'indépendance, malgré les coups d'État, les révolutions de palais et les changements des hommes, c'est le même système qui continue de diriger le pays. Le pouvoir politique est-il influencé par l'armée ? Oui, bien évidemment. L'armée algérienne a dirigé le pays durant plusieurs années, et même si elle donne l'impression, qu'une impression, d'avoir fait un pas de côté, elle continue en réalité d'influencer le jeu politique et de peser sur celui-ci. La corruption est-elle répandue en Algérie ? Oui, malheureusement, et elle est même endémique. L'ONG Transparency International, par exemple, spécialisée dans l'analyse de la corruption, considère dans son classement annuel que l'Algérie est à la 104e place, bien loin derrière la France, 20e. La presse est-elle libre en Algérie ? La réponse est non. Malheureusement, là aussi, les journalistes ou intellectuels algériens qui critiquent le régime sont souvent emprisonnés arbitrairement et condamnés parfois à de lourdes peines. Les citoyens algériens sont-ils égaux, tous devant la loi ? La réponse est non. La justice algérienne est aux ordres d'un pouvoir inique qui peut emprisonner au mépris de la loi, y compris des innocents, et qui peut aussi libérer des coupables, toujours au mépris de la loi. En somme, en termes de démocratie, l'Algérie, cette très donneuse de leçons, est classée, tenez-vous bien, 110e sur un peu plus de 160 pays, bon, elle est loin de l'Afghanistan des talibans, avec un petit indice de 3,6 et est considérée comme un régime autoritaire, bien loin, là aussi, de la France, qui est 23e avec un indice de 8, qualifiée, elle, de démocratie à part entière, même si évidemment on a toujours des efforts à fournir pour atteindre des pays comme la Norvège ou le Danemark. Et avec tout ça, ce régime algérien, celui de Tebboune, se permet de montrer une incroyable condescendance.
Et qu'en est-il du point de vue économique, pardon ?
Naturellement, nous savons que les ressources en hydrocarbures sauvent l'économie algérienne depuis plusieurs années. Donc en apparence, celle-ci se porte bien. Mais en regardant là aussi de plus près, les choses ne sont pas aussi reluisantes qu'il y paraît. D'abord, cette forte dépendance à la rente des hydrocarbures représente plus de 95% des exportations. En gros, l'Algérie ne produit pas grand-chose. Et elle représente en plus de 60% des recettes globales. Ce secteur des hydrocarbures souffre par exemple depuis plusieurs années d'un sous-investissement, ce qui empêche l'Algérie a augmenté sa production. De plus, le taux de chômage, et notamment chez les jeunes, est très élevé, autour de 30%. Et même les diplômés n'ont pas beaucoup d'opportunités. C'est ce qui explique d'ailleurs ce perpétuel besoin qu'ont les Algériens de partir ailleurs ou à viser l'étranger et à aspirer à ces fameux visas. Et ce, qu'ils soient diplômés ou pas. Il faut souligner le mauvais état des infrastructures économiques également, mal entretenues en raison, surtout, je l'ai déjà souligné, d'une corruption endémique qui gangrène tous les secteurs d'activité. Ajoutez à cela les lourdeurs bureaucratiques d'une administration médiocre au fonctionnement toujours archaïque. Il y a une chose qui marche bien en Algérie, un discours ultra-nationaliste, creux, et cette façon très puérile de bomber le torse en toutes circonstances. Les Algériens disent qu'ils se considèrent comme des hommes avec un Z, disent-ils, comme pour mieux accentuer cette virilité qu'ils veulent exhiber en toutes circonstances. Le problème avec ce pays, c'est sa mentalité. La roublardise algéroise est désormais une réalité aussi bien dans les cafés de Bab El Oued que dans le palais présidentiel où le très populiste Abdelmadjid Tebboune aime parler comme le petit peuple pour montrer une fausse proximité avec celui-ci.
Ce président qu'on connaît finalement assez peu, quel est son parcours ?
Officiellement, c'est un homme nouveau pour une Algérie nouvelle. Mais en vérité, Abdelmadjid Tebboune, ce jeune homme de 80 ans à peine, est un homme du système. Oui, c'est un jeune qui fêtera 80 ans en novembre prochain. Rien ne le prédestinait à devenir président. Longtemps, il fut méprisé par les caciques du régime qui lui ont fait jouer un rôle subalterne au sein du FLN, longtemps le fameux parti unique. Fonctionnaire entre 1975 et 1983, il a été d'abord secrétaire général en préfecture. Ensuite, à partir de 1983, il sera wali, c'est-à-dire préfet. En 1991, il est nommé une première fois ministre délégué chargé des collectivités locales auprès du ministre de l'Intérieur. C'était du temps du président Chadli Bendjedid. Par la suite, après une traversée du désert de quelques années quand même, il est nommé en 1999 au poste de ministre de la Communication, fonction qu'il occupera à peine 6 mois. 2 ans plus tard, il est nommé ministre de l'Habitat. Certains promoteurs immobiliers, probablement des mauvaises langues, disent qu'il aurait une gestion quelque peu affairiste de ce secteur. Et connaîtra là aussi une nouvelle traversée du désert avant d'être nommé une seconde fois en septembre 2012 comme ministre de l'Habitat une fois de plus. Il semblerait qu'il a une certaine passion ou un certain appétit pour l'immobilier. Par la suite, il sera nommé ministre du Commerce. Il a là aussi, semble-t-il, un intérêt pour le business aussi. En 2017, sur décision de l'armée, il est nommé Premier ministre. Mais il sera limogé quelques mois plus tard sur décision du clan du fameux Bouteflika. Après la chute de ce dernier, un clan de l'armée le met en selle pour devenir président. Voilà donc un homme qui a toujours été un fidèle serviteur d'un système corrompu, corrupteur et autocratique qui se fait passer aujourd'hui pour le chantre d'une Algérie nouvelle, alors qu'il ne fait que reproduire, parfois en pire, les pratiques contre lesquelles il prétend lutter.
Et à votre avis, dans cette crise avec le régime algérien, quels sont les leviers dont dispose la France ?
Là aussi, âme sensible, s'abstenir, mais encore faut-il que la France fasse preuve de courage et qu'elle veuille vraiment utiliser ses leviers. Je trouve la position française, je dois le dire, peu courageuse dès qu'il s'agit d'Algérie. Car face à une dictature qui manie l'insulte et qui cherche l'humiliation constamment, le pouvoir français a été quelque peu timide, en tout cas sur la retenue. Je vais vous dire les choses clairement, une fois de plus. Je suis démocrate et je suis, comme vous le savez, d'origine algérienne. J'aime beaucoup ce pays que je n'ai plus revisité depuis 26 ans maintenant. J'ai toujours trouvé anormal la relation malsaine qu'entretient la France officielle avec les dirigeants algériens. C'est une relation malsaine, je le souligne. Que ce soit la droite ou la gauche, mais aussi le centre, tous les partis ont une relation inacceptable avec ce pays, en tout cas méprisante à l'égard de sa population. Que ce soit les déclarations passionnelles, parfois haineuses, de l'extrême droite, que ce soit les déclarations tout aussi passionnelles, souvent mielleuses, de l'extrême gauche, il n'y a jamais eu de relation saine entre la France et l'Algérie. Quand l'opposant algérien Ali Messili est assassiné à Paris en 1987, vous n'étiez pas encore née, Elsa. Il a été assassiné par la sécurité militaire algérienne sur le territoire de la République. Eh bien, figurez-vous que son assassin, arrêté pourtant très vite après ce crime, est renvoyé immédiatement à Alger sur décision au plus haut niveau de l'État français, c'est-à-dire renvoyé chez ses commanditaires. C'est la droite qui était au pouvoir. L'assassin d'Ali Messili n'a jamais été condamné. Quand les islamistes tuaient des démocrates en Algérie durant le début des années 90, ils avaient curieusement plus de facilité à avoir des visas et à venir en France que ces mêmes démocrates francophones qu'ils assassinaient. C'était la gauche qui était au pouvoir. À chaque fois, le calcul politique. Quand les caciques du régime d'Alger insultaient la France officielle leur permettait de disposer de cartes de séjour pour eux-mêmes ou pour leur famille. Ils pouvaient venir se soigner et déposer l'argent de la rapine et de la corruption, parfois dans les banques françaises, en toute impunité, et alors qu'il y a une loi contre les biens mal acquis. Alors je vais le dire calmement. Si la France veut se faire respecter, et elle doit se faire respecter, il y a trois attitudes à avoir face aux Algériens. D'abord, engager un rapport de force, parce que dans la mentalité de Abdelmadjid Tebboune, on ne respecte pas les faibles. Ensuite, réagir sur deux sujets, la question des biens mal acquis et divulguer les dossiers compromettants dont dispose la France sur la plupart des dirigeants algériens. Enfin, dernière attitude et probablement la plus importante, redéfinir les relations franco-algériennes sur une base saine entre deux États adultes dans le respect mutuel et dans une logique de coopération au regard de l'histoire et de la sociologie qui concerne les deux pays. Et je vais finir par un point, un brin d'ironie quand même dans ce monde de brutes. Car les Algériens sont complotistes. Et je vais leur dire une chose. Je tiens à vous avouer que cette chronique a été écrite en vérité par la sioniste Elsa Parianté, ici présente, commandée par mon ami Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, et financée par le roi du Maroc, bien sûr, Mohamed VI. Alors, les hommes, avec un Z, il vous faut inventer d'autres théories désormais, parce qu'en vérité, votre discours éculé ne tient plus la route. À très bientôt.